le 6-9 du week-end. Éric Delvaux sur France Inter.
Bonjour Jean Tollet.
Bonjour Éric, bonjour Patricia.
C'est
bonjour.
Toujours un bonheur de lire vos romans, et notamment ceux qui sont basés sur des faits historiques et réels. C'est le cas de votre dernier livre, Entrée dans la danse, aux éditions Julliard. Ça se passe à Strasbourg, on est en 1518, une épidémie dansante, une hystérie collective qui touchera toute la ville. D'abord, une jeune femme qui jette son bébé à la rivière, et elle se met à danser, et sa danse devient contagieuse jusqu'à faire des morts d'épuisement, la peste dansante, comme disait Shakespeare, comme dira plus tard Shakespeare, quelques dizaines d'années plus tard. Comment, Jean Tollet, avez-vous découvert cette histoire hallucinante?
Complètement par hasard, et je m'en souviens très bien, c'était en 2016, j'allais à la foire du livre de Brive, et il y a un train spécial plein d'écrivains, de journalistes littéraires, et ce train est surnommé dans le milieu le train du cholestérol. Parce qu'on prend le train à 9h, à 9h30, il commence à nous servir des apéritifs, et l'apéritif à 9h30, c'est un style. Après, on passe au foie gras, au confit de canard, tout ça arrosé de vin. À 11h30, c'est l'heure du digestif. Tout le monde en est à la vieille prune de Souillac, et tous les écrivains sont un peu torchés. Et là, je vois un jeune type qui vient me voir avec les yeux tout brillants, il s'appelle Julien Bisson, qui était le rédacteur en chef de Lire, et qui me dit « Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 ?» Et là, je regarde ses yeux brillants, je me dis « Donc c'est lui le mec le plus bourré du train. » Et il me dit « J'ai entendu deux, trois mots là-dessus. » Et je me suis tout de suite dit « C'est un livre pour Jean. » Je passe la journée, puis le soir, dans la chambre d'hôtel, je repense à ce que j'avais pu faire, et puis je m'amuse à taper sur Internet « Strasbourg, danse, 1518. » Et là, je tombe sur une chronique de l'époque qui disait « Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandu dans Strasbourg de telle sorte que dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit sans interruption pendant 2 mois jusqu'à tomber inconscient. Beaucoup sont morts. » Et là, je me dis, putain, c'est vrai. C'était pas une connerie. Et aussi c'est que je suis parti en recherche pour cette histoire.
Alors 1518, c'est une époque où la ville de Strasbourg cumule les ennuis. Il y a la menace d'invasion turque, il y a canicule, il y a le fleuve qui déborde, il y a toutes les épidémies possibles, elles y sont toutes, une météorite même, une famine qui engendre. Alors le cannibalisme, ça aussi c'est un fait réel, ce cannibalisme à Strasbourg en 1518.
Il n'y avait plus rien à manger. Dans Strasbourg, il n'y avait plus un chat, puis un chien, puis un rat, puis une souris, tout avait été bouffé. Les gens étaient dans un état de famine totale, et les femmes, quand elles avaient fini d'allaiter, allaient sur un pont, le pont du Corbeau, balancer leur enfant à la rivière, ou les mangeaient. Il y avait aussi des scènes de coprophagie. Les gens allaient autour des hôpitaux de lépreux. À l'époque, il n'y avait pas de latrine, on balançait les excréments par les fenêtres. Ils récupéraient ça et ils mangeaient ça. Ils en étaient là.
Alors, ce n'est pas seulement la première rêve partie, comme vous avez l'habitude de dire pour...
La première rêve partie, la plus grande, la plus dingue et la plus mortelle.
Et la plus meurtrière, effectivement. C'est aussi une orgie. Alors, ça bande et ça copule dans tous les sens. Ça aussi, c'est vrai ou c'était rajouté pour les
faits? Au bout d'un moment, il n'y a plus que ça à faire. Il n'y a plus qu'à baiser et à danser comme des cons jusqu'à en crever quand on est dans un état de malheur pareil.
Alors, on danse jusqu'à en mourir. Parmi les explications possibles à cette hystérie collective au début du XVIe siècle, c'est l'ergotisme. C'est quoi l'ergotisme?
Alors l'ergotisme, c'est on appelle ça aussi la maladie du seigle. Le seigle, c'est là en fait, c'est la moisissure du seigle quand il a été conservé à l'humidité. Et ça, c'est le LSD à l'état pur. D'ailleurs, le LSD est la reconstitution chimique
de
la moisissure du seigle. Et donc les médecins, à un moment, ont pensé que c'était peut-être ça l'ergotisme. Qu'on appelait aussi le feu de Saint-Antoine. Mais en même temps, ils ont dit que ce n'est pas possible parce que l'ergotisme diminue l'afflux sanguin dans les membres, donc empêche mécaniquement de danser. L'évêque de Strasbourg, lui, disait c'est la danse de Saint-Guy, de la danse de Saint-Guy dont il souffle. Les médecins ont dit que ce n'est pas possible non plus parce que la danse de Saint-Guy n'est pas une danse, c'est des secousses nerveuses. Tandis que là, les gens faisaient vraiment des danses, faisaient des ronds, des farandoles, des caroles, des tresques, la danse des cigogne. Et donc, personne ne comprenait plus rien. Et...
Personne ne comprend plus rien. Les médecins ne savent pas l'expliquer. Et on voit bien aussi le rôle de l'Église. Alors, vous n'êtes pas tendre avec l'Église qui s'en met plein les fouilles et puis qui demande en plus de l'argent aux plus pauvres pour aller financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir ou est-ce que c'est une caricature volontaire de
cette Église ? Ah, c'est pas une caricature, c'est la réalité. Et le clergé strasbourgeois, c'est tellement mal conduit avec la population que 3-4 ans après, le catholicisme a été chassé de Strasbourg et c'est les protestants qui ont déboulé. Et pendant 150 ans, le clergé a été foutu à la porte de Strasbourg. Mais ils se sont comportés de façon horrible.
Il y avait l'impôt d'indulgence.
Mais voilà. Il fallait que les gens qui en étaient donc à bouffer leur môme ou à les foutre à la rivière, le clergé exigeait qu'il donne de l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Et en échange de l'argent, plus ils en donnaient, plus ça leur retirait d'années de purgatoire ou d'enfer. Donc c'était une vraie escroquerie. L'évêque qui s'appelait Guillaume de Hohenstein était un type complètement taré. Il avait notamment une manie, c'est que tous les matins, il fallait qu'il se lave le visage au lait de paroissienne. Un beau tapé quand même. Et puis, il avait une relique à la cathédrale de Strasbourg, qui était une goutte de lait de la Sainte Vierge. Moi, je dis souvent, il faudra un jour qu'on m'explique qui a pris une goutte de lait de la Sainte Vierge, comment il l'a rangé quelque part, et comment un millénaire et demi après, la goutte de lait continue à couler. Donc, c'était absolument n'importe quoi. En plus, ils avaient des couvents, des églises remplies de bouffe. Et alors que la municipalité, elle, avait des greniers pour en cas de disette et avait vidé ses greniers pour nourrir la population, quand il n'y a plus rien eu, le clergé a refusé de distribuer la nourriture pour spéculer sur la misère. On a l'impression d'être aujourd'hui, quoi.
Quel rapport, d'ailleurs, personnellement, vous, Gentelet, vous entretenez avec l'Église ?
Mais pas que avec les catholiques, avec toutes les religions. Moi, je trouve ça mais invraisemblable. Je me dis, c'est des contes de Noël pour adultes. Comment et ce qui m'étonne dans cette époque tout de suite, c'est qu'à quel point on peut être technologiquement tellement loin et on retourne à un archaïsme tel. J'ai l'impression que le monde fait le grand écart. Il va se déchirer. C'est complètement fou. Ces trucs de religion.
Hystérie de la danse dans cette ville de Strasbourg, indépendante à l'époque du Saint-Empire germanique.
Oui, parce que c'était pas en France. Oui. C'était une ville libre dans le Saint-Empire romain germanique. Oui. Ils battaient monnaie et tout. C'était un pays.
Comment les Strasbourgeois ont-ils accueilli cette nouvelle, qu'ils connaissaient d'ailleurs ou qu'ils ne connaissaient pas ?
Ils connaissaient très très peu. Très peu de Strasbourgeois connaissaient, mais cette année, ils vont faire à Strasbourg une grande exposition au musée de l'œuvre Notre-Dame, sur cette fameuse danse, qui est un phénomène unique, hein, qui n'est jamais arrivé dans l'histoire avant, qui n'est plus jamais arrivé sur Terre depuis. C'est une danse unique, une danse de la désespérance. Et en ce moment, oui, sur Terre, il y a tellement d'endroits, tellement de gens qui vivent dans un état de malheur invraisemblable, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui se remettent à danser.
Un mot sur votre façon de travailler. Vous dites que vous ne lisez jamais de romans. Comment faites-vous pour écrire des romans sans avoir jamais lu de livres référents ?
Ben non, je crains toujours par exemple, j'ai jamais lu un Victor Hugo, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et je crains de un jour de tomber sur un écrivain et de préférer lire ses livres que d'écrire les miens, et donc moi je ne lis que utile, je ne lis que pour apprendre des choses. Je lis beaucoup, mais pour apprendre des choses et pas de romans, j'en écris.
Vous avez conscience que c'est incroyable d'écrire des livres à succès alors qu'on ne lit pas de romans.
Mais oui.
Vous ne l'expliquez pas plus que ça.
Non.
Bon. Mais vous avez quand même lu, vous lisez utile, dites-vous. Vous avez lu notamment les écrits d'un médecin suisse, Paracelse. Oui, c'est ça, qui avait cherché à comprendre le phénomène de Strasbourg en 1518. Qu'avez-vous appris dans ces écrits du médecin ?
Eh ben, j'ai appris qu'il a rencontré que la première danseuse, qui est Eline Trofea, la patiente zéro, comme on dit pour une épidémie. Et c'est vrai que ce Paracelse, qui était un Suisse, est considéré comme un des fondateurs de la toxicologie et tout. Et ça l'a fasciné. Ce truc-là, il est venu 8 ans après enquêter à Strasbourg, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est grâce à lui qu'on connaît les événements dans l'ordre pour savoir comment et la municipalité et le clergé ont essayé de résoudre ce problème. Où il y a eu plus de 2000 morts, une population de 15 000 habitants.
Oui, ça a duré deux mois et demi, je crois.
Voilà, 2 mois et demi. Ils ont commencé à danser le vendredi 12 juillet 1518. Ça s'est terminé le 29 septembre.
Votre dernier livre, Jean Tellet, s'appelle donc Entrée dans la danse, une sorte d'hystérie collective dans la ville de Strasbourg en 1515. Une transe. 1518, vous avez raison. Une transe jusqu'à en mourir d'épuisement. Entrée dans la danse apparaît aux éditions Julliard. Restez avec nous, Jean Tellet, car dans un instant, après la revue de presse d'Adrien Toffolet, on va continuer d'explorer l'histoire à propos cette fois de l'année Georges Clémenceau. Clémenceau dans la perspective des 100 ans de l'armistice du 11 novembre prochain. Et vous, les auditeurs, quelle est la figure que vous retenez du père La Victoire et comment vous inspire-t-il encore ou comment inspire-t-il la classe politique? On en parle dans un instant avec l'historien Michel Vinocq. On attend vos questions. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000.